République, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public qui reprend le cours normal de ses émissions depuis le studio 106 de la Maison de la Radio en direct et devant un public nombreux et manifestement vacciné car nous n'entendons aucun bruit suspect qui aurait pu être dénoncé à l'auteur du communiqué qui nous a précédé. Nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, et avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Tiranova. Nous commencerons par nous intéresser à la situation du syndicalisme en France. La maladie a eu raison de François Chérec lundi dernier, il avait 60 ans. Secrétaire général de la CFDT de 2002 à 2012, puis responsable de l'Agence pour le service civique et président de la Fondation Terra Nova, il a marqué le paysage social français par son engagement en faveur de la réforme et de la concertation, notamment en 2003, lors des discussions sur les retraites. François Hollande a salué un homme dont le courage a éclairé l'action. François Fillon, ministre des Affaires sociales et du Travail en 2003, garde le souvenir d'un interlocuteur de grande qualité, courageux, exigeant et humaniste. Cette disparition survient alors que le paysage syndical est marqué par la longue contestation du printemps dernier contre la loi travail. La CFDT a accompagné le gouvernement dans la réécriture d'un texte qu'elle a qualifié de cohérent et équilibré, alors que la CGT l'a rejeté en bloc et pris la tête d'un vaste mouvement de grève. Le syndicat des cadres CFE-CGC a demandé la suspension des débats parlementaires après l'élection de François Omeril à sa tête et Force ouvrière a dénoncé un texte d'inspiration néolibérale. Ces divergences entre syndicats s'expriment à nouveau à l'occasion des élections professionnelles dans les très petites entreprises, moins de 10 salariés, qui ont débuté vendredi. La CFDT pourrait devenir le premier syndicat de cette catégorie, aux dépens de la CGT. Les résultats du vote seront connus début février. Le programme du candidat républicain à la présidentielle, François Fillon, a en revanche déclenché une opposition unanime des syndicats. Il a réaffirmé son projet de supprimer 500 000 postes dans la fonction publique, d'abroger le monopole syndical au premier tour des élections professionnelles, d'organiser un référendum sur la question de l'alignement des régimes de retraite et de mettre fin aux 35 heures par ordonnance l'été prochain. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a promis de fortes mobilisations en cas de victoire de François Fillon à l'élection présidentielle. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a fait part de son inquiétude et qualifié d'insupportable le projet de suppression de 500 000 postes de fonctionnaires. La France a un des plus faibles taux de syndicalisation d'Europe, avec 11% de syndiqués et 5% de la population qui se déclare sympathisante d'une organisation syndicale. La participation aux élections professionnelles se maintient toutefois à un niveau élevé, avec un taux de 43% dans le secteur marchand et de 53% dans le secteur public lors des scrutins de 2012. Sur cette question, Thierry Pech.
Si vous le voulez bien, Philippe, je voudrais commencer par rendre hommage à François Chérec, qui a été mon patron. C'est pas commun d'avoir un syndicaliste pour patron, qui a été mon compagnon de route, d'idées et mon ami. J'ai travaillé avec lui à la CFDT, puis vous l'avez rappelé à Terra Nova. Un ami qui ne le connaissait pas m'a écrit des mots que je crois très justes. Il m'a dit je n'ai pas eu le privilège de connaître François Chérec, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un honnête homme de moins dans ce bas monde, alors que nous en avons si grand besoin. François Chérec était un honnête homme, dans le plein sens du mot. Il était, à titre personnel, un curieux mélange de force et de douceur, de subtilité. Il avait commencé sa vie professionnelle aux côtés d'enfants autistes. Il avait fait beaucoup de psychologie. Il en avait gardé, d'ailleurs, beaucoup de choses. Du point de vue politique, son réformisme, qui a souvent été caricaturé comme une espèce d'adaptation simple et technique à la marche du monde, était en réalité une doctrine beaucoup plus exigeante, beaucoup plus rugueuse sur le plan critique et beaucoup plus lumineuse, je dirais, sur le plan historique. Il a essayé d'en ramasser les principes dans un livre paru en 2005, Réformisme, Réformiste et impatient, Ce titre est resté d'ailleurs, et je voudrais faire un commentaire, ce titre il venait d'une anecdote qu'il y avait à la CFDT à l'époque, un monsieur qui nous avait dit « Quand j'avais 20 ans, j'étais révolutionnaire, mais j'avais le temps. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 60, et donc j'ai plus le temps. C'est pour ça que je suis réformiste. Je veux que ça change maintenant, je veux que ça change tout de suite. » Et François s'était reconnu, d'une certaine façon, dans cette impatience. Voilà pour le portrait, il y aura encore beaucoup à dire, mais nous aurons l'occasion d'y revenir probablement à différentes occasions dans les mois qui viennent. Sur le fond, la situation du syndicalisme en France, elle est critique. Je crois qu'il faut commencer par là. Le taux de syndicalisation dit bien la difficulté dans laquelle se trouvent les organisations syndicales. Elle est critique aussi du fait de sa pyramide des âges. Beaucoup des adhérents des syndicats et des cadres sont des gens maintenant un peu âgés. Et en même temps, et c'est le paradoxe devant lequel se trouve ce pays depuis bien longtemps maintenant, en même temps, il y a toujours besoin d'interlocuteurs dans le monde du travail, dans l'entreprise, au niveau national, pour parler des questions de protection sociale et d'autres encore. Et c'est cette difficulté de laquelle il faudrait pouvoir sortir. Et je crois qu'il y a... Il y a deux défis majeurs aujourd'hui pour le syndicalisme dans notre pays. Le premier, c'est survivre dans le salariat tel que nous le connaissons. Et le second, c'est s'implanter dans les nouveaux mondes du travail que sont les mondes de l'indépendance et de la précarité. Alors, survivre dans le salariat tel qu'il est, comment faire? Il y a aujourd'hui deux stratégies qui divisent d'ailleurs les deux camps. Le camp réformiste d'un côté, où on retrouve bien sûr des organisations comme la CFDT, l'UNSA souvent, la CFTC souvent également, où il y avait autrefois la CGC mais qui a dérivé vers d'autres horizons aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, un syndicalisme d'opposition, plus contestataire, où on retrouve la CGT-FO. Qu'est-ce qui divise ces deux mondes? C'est pas simplement des positions idéologiques, ce sont des stratégies d'intervention également. La CGT et FO ont, me semble-t-il, aujourd'hui la stratégie du faible au fort, qui passe par la loi d'abord. Pourquoi la loi? Parce que là, au moins, on a les moyens d'agir sur tout le monde. Quand on est présent dans si peu d'entreprises, quand on est aussi largement absent du tissu productif tel qu'il est, la loi est une espèce de secours. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui disent « Non, notre métier, c'est de représenter les travailleurs et c'est d'être au plus près d'eux, là où ils se trouvent, dans les entreprises. » Et donc, l'autre stratégie d'intervention, c'est celle de l'accord collectif dans l'entreprise et dans les branches professionnelles. Et c'est la stratégie de la CFDT, etc. Je voudrais, en disant ça, vous sensibiliser au fait que ce ne sont pas que des différences de morale générale ou d'idéologie. Ce sont vraiment des différences d'implantation dans le corps social. Et ça fait beaucoup d'autres différences. Alors, j'aurai l'occasion peut-être, Philippe, tout à l'heure, de revenir sur comment s'implanter dans le monde de la précarité et de l'indépendance. C'est un autre sujet. Les débats autour d'Uber ont montré qu'il y avait besoin, là aussi, de représentation des actifs, même lorsqu'ils ne sont pas des salariés.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors pour continuer sur cette logique décrite par Thierry, si, comme beaucoup d'analystes le prédisent, si en mars la CFDT passe devant la CGT comme premier syndicat de France, ça sera une évolution non seulement historique, mais très très importante sur le plan politique, avec une signification politique vraiment importante. Parce que dans cette opposition des stratégies d'intervention qu'a décrite Thierry, on voit bien, surtout depuis la loi travail, une constante qui est cette opposition entre la CGT, pour schématiser, donc qui est dans la contestation politique, et encore plus sous le leadership, sous la direction de Philippe Martinez, qui se sent d'ailleurs légitimé par la campagne du printemps contre la loi travail. Et puis la stratégie de la CFDT qui, contrairement à ce qu'a dit Manuel Valls l'autre jour dans son émission à France 2, il dit nous avons la CFDT nous a soutenus, et là, c'était pas une négociation, c'est une loi, la loi travail, et la CFDT en réalité a essayé d'en tirer parti pour éviter les catastrophes et tirer les marrons du feu, si je puis dire, pour en sortir des éléments positifs. Ce en quoi elle a, je trouve, réussi. Et donc, la grosse évolution de cette loi qui qui répond à ce vocable absolument ingrat et horrible, cette expression d'inversion de la hiérarchie des normes. C'est donc cette priorité donnée à la négociation d'entreprise qui est un vrai virage dans le syndicalisme français, s'il réussit, car il ouvre cette technique, cette stratégie d'intervention ouvre la perspective de rapprocher le processus de négociation du cadre de l'entreprise. Comme a dit Thierry, le syndicat se met au plus près des salariés. C'est un virage que la CFDT avait déjà pris à son congrès de mars 2014, et ce qui explique qu'il n'est pas provoqué l'attitude de la CFDT pendant la loi travail, sur la loi travail, n'a pas provoqué de contestation interne à l'échelle de ce qui s'est passé en 2003 à l'époque de la réforme des retraites ou avant à l'époque de Nicole Notat. Mais c'est un énorme pari pour la CFDT parce que c'est un saut dans l'inconnu, parce qu'il faut que c'est une nouveauté dans le syndicalisme français. Ça veut dire que les syndicalistes seront très exposés. Il faut qu'ils aillent au contact, il faut qu'ils fassent de la pédagogie auprès des salariés, et il faut sur des dossiers souvent très compliqués, au lieu d'attendre que tout arrive d'en haut d'une manière plus ou moins adaptée aux exigences des salariés. Et c'est un pari un peu dans un pays, c'est un pari qui ressemble un petit peu au dialogue à l'allemande, dans un pays qui n'a pas la culture du compromis. Et alors, pour que ce pari réussisse, et c'est là le gros risque pour la CFDT, c'est qu'il faut que le patronat joue le jeu aussi, il faut que les patrons soient responsables à l'échelle des entreprises et ne fassent pas le chantage à l'emploi, ce qui est l'argument avancé par la CGT pour rejeter cette technique.
François Bujon de l'État.
Oui, moi je suis, si on regarde le contexte international et le contexte européen, moi je suis très frappé par le caractère très idiosyncratique du syndicalisme français, au fond. La France se distingue beaucoup de ses partenaires européens. D'abord, c'est une banalité, pardon, mais il faut quand même le souligner, à cause de la faiblesse très grande des syndicats et de leur faible représentativité. Si on compare le taux de syndicalisation en France par rapport avec celui des autres pays européens, on voit qu'en France, le syndicalisme est inégal. Il est beaucoup plus fort dans certains secteurs d'activité, comme la fonction publique, ou comme les transports, ou comme l'énergie, certaines entreprises publiques, que dans beaucoup d'autres. Et en moyenne, je crois que le taux de syndicalisation est autour de 23%, ce qui est très faible comparé à beaucoup de nos partenaires européens. Je pense pas tellement aux grands pays scandinaves ou aux pays baltes qui ont un très très fort taux de syndicalisation parce qu'ils ont un type de syndicalisme très différent qui est dispensateur de prestations, ce qui n'est pas le cas du nôtre. Mais il y a des pays comme le Royaume-Uni, simplement 30%. Ou 35% en Italie, et chez nous, beaucoup, beaucoup plus faible. Et puis ce côté très bizarre et très, encore une fois, idiosyncratiquement français, d'avoir une représentativité, la notion de représentativité qui est fondée non pas sur le taux de syndicalisation, mais sur la représentation, sur l'audience électorale de chacun des syndicats dans les élections professionnelles. Ceci, en tout cas, depuis la loi de 2008. C'est un curieux système, finalement. Et c'est un système qui ne marche qu'avec des contributions importantes des finances publiques pour soutenir le syndicat et les syndicalismes. En ce sens, c'est un système un peu bizarre, un peu bâtard, un peu bancal, et sur lequel il faut certainement réfléchir. Une deuxième remarque, c'est que au sein du syndicalisme, on retrouve, alors si on se tourne plutôt vers l'idéologie, la même césure qu'au sein du corps politique, finalement. Et dans la gauche française, on retrouve la même césure que dans le syndicalisme. Il y a des réformistes, sociaux-démocrates ou libéraux-démocrates, comme on veut les appeler, contre des gens de l'extrême gauche qui sont beaucoup plus conservateurs. C'est le cas, bien entendu, du Front de gauche ou même des Frondeurs. Et vous retrouvez ça dans le syndicalisme français avec l'opposition entre les syndicats réformistes, dont la CFDT est évidemment l'exemple même, et la CGTFO, qui sont au contraire partisans généralement de l'immobilisme. Alors on a vu, il y a eu une métamorphose, on en a parlé tout à l'heure, en 2003, au moment du débat sur la réforme des retraites, lorsque la CFDT, qui a payé d'ailleurs dans les années qui suivaient le prix fort pour cette conversion, s'est tournée effectivement vers le réformisme et a entamé un virage qu'aujourd'hui elle poursuit de façon très intéressante et très constructive. Et puis une troisième remarque qui touche alors à la CGT particulièrement, je suis quand même très frappé par l'archaïsme des positions, des attitudes et souvent de la rhétorique utilisée par la CGT. Ceci lui est propre. Cette rhétorique un peu paléo-bolchévique qu'on entend périodiquement, le marxisme, la lutte des classes, le troisième tour social. Le troisième tour social, c'est une expression que je trouve particulièrement inquiétante dans la mesure où elle arrive à nier finalement le résultat d'une élection ou le résultat d'un verdict démocratique. Voilà, il y a quelque chose là qui est quand même intéressant quand on voit que ce syndicat qui mobilise et qui est opposé à toute réforme, qu'elle soit de gauche, on l'a vu avec la loi El Khomri, ou de droite, comme on le voit avec le programme Avenir de M. Fillon, incarne véritablement l'immobilisme social et ne se tourne pas du tout vers l'évolution de la société, puisque tous les problèmes dont nous avons parlé rapidement il y a quelques instants, le fait que le salariat n'est plus le type unique de travail, qu'il y a d'autres modes de travail auxquels il faut s'intéresser, a l'air de laisser très indifférent ce syndicat que je trouve pour ma part très archaïque dans son comportement.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je suis sur un mode très différent parce que je n'ai pas du tout la familiarité qu'avait Thierry avec Monsieur Chérec, mais je suis également très sensible sur le plan personnel à la disparition de cette figure qui était une figure quand même tout à fait étrange. Alors je ne répéterai pas, je suis d'accord avec ce qu'a dit Thierry, je ne répéterai pas ce qu'il a dit, mais il y avait quelque chose qui, pour moi, qui suis assez attentif, comme vous tous, au débat public, qui me fascinait, c'était le style Chérec. Si Molière n'avait pas employé en termes, dans un sens dérisoire, en le mettant dans la bouche de Sganarelle, l'expression de moine bourru, je crois que ça lui irait très bien. C'était un moine bourru ou alors un ogre tendre. Il avait ce mélange de rugosité et de générosité qui était extraordinaire et qui se manifestait notamment dans une élocution extravagante. C'est-à-dire que c'était un précipité de mots qui s'entrechoquaient au portillon, et on ne savait jamais, avec la vigueur avec laquelle il parlait, si ce qui dominait en lui, c'était l'indignation, la ferveur, l'enthousiasme, la volonté. C'était tout ça, c'était une sorte de précipité de tous ces sentiments qui se bousculaient et qui sortaient dans la discussion. Et je trouve que dans ce monde extrêmement lisse, où tout le monde parle très bien, avec des belles phrases et des petits mots, maintenant des tweets, etc., cette espèce de robustesse simple était quelque chose d'assez formidable. Et je pense que ça va vraiment manquer au débat social et public. Alors sur le fond, je crois que qu'est-ce que représente la révolution qu'a symbolisé après d'autres, parce que nous avons reçu ici, vous vous souvenez, Philippe, puisque c'est vous qui l'avez invité, nous avons reçu Edmond Maire, qui avait été quand même à l'origine de tout cela, ensuite Nicole Natta, qui a fait vraiment franchir à la centrale un pas essentiel, Laurent Berger est un successeur tout à fait dans la ligne et digne de Chérec. On a quelque chose, un corpus, une continuité, une séquence qui est impressionnante. Alors quels sont les atouts et les inconvénients de ce type d'offre syndicale? Je crois d'abord qu'il y a un premier élément qui est le réalisme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui refuse de raconter n'importe quoi sur le plan économique. Quelquefois, il s'embrouille un peu dans les complexités technocratiques sur ce qu'il propose, mais peu importe. Sur le fond, il fait une analyse économique réaliste. Or ça, ceux qui refusent cette analyse sont dans l'erreur et ne sont plus convaincants. Nous avons une société qui a atteint un niveau de développement intellectuel assez élevé. C'est combattu par l'indignation. Je reconnais que les gens sont furieux contre le sort qui est le leur, et donc ils opposent au réalisme la force de l'indignation. Mais l'indignation ne mène nulle part. Chez Chérec, l'indignation était un point de départ et non pas un point d'arrivée. Il partait d'une situation qu'il estimait inacceptable et il allait et il proposait des solutions concrètes. Donc, premier élément, le réalisme. Deuxième élément, et je crois que c'est très important, la décentralisation. La décentralisation au sens, pas au sens administratif du terme, au sens plein du terme. C'est-à-dire l'idée que les solutions dans une société aussi complexe et diversifiée que la nôtre ne pouvaient relever que du sur-mesure. D'où la valorisation, non pas tellement de l'accord de branche, que la branche est encore un truc, on ne sait pas d'où ça vient, le classement par branche, c'est quand même un peu une ineptie, mais de la négociation dans l'entreprise, c'est-à-dire là où les problèmes se posent, là où les solutions s'esquissent, là où le débat s'organise, et c'est donc du sur-mesure. Et là, on voit bien à quel point le réalisme heurtait la volonté révolutionnaire, mais à quel point cette décentralisation s'inscrit, et je vais dire quelque chose qui va peut-être déplaire à certains, mais je n'y vraiment pas en mauvaise part, s'inscrit dans une tradition qui est une tradition chrétienne, assurément, même une tradition d'Ancien Régime, une tradition prélibérale, qui est celle du privilège, au sens étymologique du terme. Qu'est-ce que c'est que le privilège ? C'est pas un abus, c'est la loi privée. C'est-à-dire l'idée qu'il y ait une disposition, ça s'appelle le contrat, ça peut s'appeler le contrat.
Ça sera moins ambigu, Jean-Louis.
Il faut quand même, je défends pas de tradition intellectuelle particulière. Je crois que la CFDT est enracinée dans une tradition du syndicat, comme le MRP, comme la démocratie chrétienne, comme une grande partie des constructeurs de l'Europe, dont je me sens très proche, est enracinée dans une tradition qui est une tradition qui n'est pas fondée sur la loi expression de la volonté générale, qui est fondée sur des mesures, des adaptations, ce qui ne veut pas du tout dire que c'est moins contraignant qu'autre chose et moins progressiste qu'autre chose. Troisième, ça explique la tension, notamment avec des gens comme Maïk, avec Force Ouvrière, parce que là, on est dans une tradition culturelle qui n'est pas la même. Troisième élément, le compromis. C'est-à-dire que non seulement c'est une des dispositions particulières, mais elles sont contractuelles, on fait un compromis. Et là, je voudrais conclure là-dessus, Philippe. Le compromis n'est pas quelque chose qui est étranger à la société française. La CGT a pratiqué depuis la libération le compromis, à sa manière, c'est-à-dire centralisé, entre le symbole étant les accords de Grenelle, une négociation centralisée menée par le leader de la CGT, en l'occurrence M. Segui, face au gouvernement, en l'occurrence M. Pompidou, et arrivant à des résultats. Et l'idée, c'est que ce CGT lié au Parti communiste transforme de l'idéal révolutionnaire en compromis keynésien. C'est-à-dire qu'on prend l'idéal révolutionnaire et on le débite en tranches pour faire des augmentations de revenus et des améliorations de conditions sociales. Là, Ce compromis-là, il est fini, le compromis centralisé comme cela. C'est en cela, d'ailleurs, que la social-démocratie aussi est mal partie. Maintenant, on a des compromis qui sont beaucoup plus décentralisés, et là, et j'insiste là-dessus, le problème de la CGT, c'est qu'en passant du stalinisme au trotskisme, elle a renoncé à cette culture de compromis. Elle fait dans la culture de l'indignation, c'est-à-dire une culture qui peut effectivement soulever des passions sur les barricades et dans les colonnes des journaux, mais qui ne débouche pas sur des améliorations concrètes. Et donc, de ce point de vue-là, la CFDT est effectivement porteuse de quelque chose d'assez profondément nouveau.
Thierry Pêche.
Oui, beaucoup, comme vous, François, comme vous l'avez fait, sont revenus sur l'épisode de 2003 en disant que la CFDT avait payé au prix fort son esprit d'indépendance, d'une certaine façon, notamment dans cette réforme des retraites. Je crois que c'était pas la première fois, et que ce prix est d'abord le prix de la cohérence d'une organisation. Et au fond, l'histoire de la CFDT, elle est marquée par trois ruptures. Une rupture avec la doctrine sociale de l'Église en 64, la déconfessionnalisation avec un personnage que tout le monde a oublié, mais qui est un personnage absolument formidable. Bon, non pas Descamps, Paul Vigneault. Paul Vigneault qui a été le théoricien de la déconfessionnalisation, qui était l'initiateur des cahiers reconstruction, qui a identifié les Edmond Maire et quelques autres et qui les a fait travailler et qui a fait monter une génération d'ouvriers souvent catholiques à l'origine, aux responsabilités.
Et d'intellectuels qu'il a aussi embarqué dans cette affaire. Il en était un lui-même, d'ailleurs.
Il était également, pour mémoire, un grand islamologue, médiéviste, spécialiste de l'islam médiéval. Enfin, c'est un personnage absolument fascinant. Donc, 64, première rupture avec la doctrine sociale de l'Église, avec le christianisme.
Pas avec la doctrine sociale, avec la confessionnalisation.
Alors, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de la CFDT, ces ruptures, il en reste toujours quelque chose. Et au fond, cette organisation, dans le syndicalisme français, elle se caractérise par sa sensibilité à la dignité de la personne. aux questions de l'individu. Alors que tout le monde ne parle que de classe sociale, il reste des valeurs chrétiennes méconnaissables d'une certaine façon dans le discours de la CFDT. Deuxième rupture, 78, le rapport Moreau, qui est le rapport de ce qu'on a appelé le recentrage, où en gros, Edmond Maire et ses proches, dont Jacques Chérec, d'ailleurs le père de François Chérec, disent rupture avec la politique. On va s'éloigner du champ politique, on va faire notre métier de syndicaliste. Mais bien sûr, il reste là aussi quelque chose des engagements antérieurs, notamment le rêve d'une société, d'un projet de société différent, etc. Troisième rupture, les ruptures de 95 et 2003, celle à laquelle procède Nicole Notat et celle à laquelle procède François Chérec, qui sont des ruptures, au fond, avec l'héritage 68 dans la CFDT. Après 68, arrivent dans la CFDT des gens dont on ne veut pas la CGT, notamment les trotskistes, un certain nombre de radicaux. C'est la rupture avec les radicalités de gauche, si vous voulez. Bon, alors là, il en reste moins, c'est sûr. Il y a moins de résidus. Mais ce qui fait la cohérence de cette organisation, c'est d'avoir fait ces trois ruptures de façon déterminée et courageuse, et à chaque fois avec des pertes. À chaque fois en prenant ses pertes. Moi, je me souviens, Edmond Maire avait eu cette phrase qui est célèbre chez les cédétistes dans un congrès. En s'adressant aux congressistes et aux adhérents, il avait dit « Sortez de vos sarcophages ». Il y a eu toujours à la tête de cette organisation des gens capables de dire « Sortez du passé, vivez avec votre époque, essayez de rendre service à vos contemporains ».
Sylvie Kaufmann.
Oui, d'abord, je voudrais dire mon admiration à Jean-Louis qui a réussi à mettre dans la même phrase « compromis et stalinisme », c'est bien.
Mais également contrat et privilège. Mais
ça, vraiment, Staline est un homme de compromis.
Absolument, on peut le dire, oui. Et à propos de compromis, je voudrais citer, puisqu'on en parle beaucoup à juste titre, cette phrase de François Chérec, justement. « Un compromis, ce n'est jamais un renoncement, c'est toujours une étape vers les objectifs que l'on s'est fixés. »
C'était bien l'idée de Staline.
Ah oui, absolument.
Jean-Louis, alors.
Je trouve que ce qui relève de cette cohérence, le résultat de cette cohérence que l'on a décrite de la CFDT, qui et de cette continuité de cette stratégie depuis 1978, depuis ce recentrage et ce virage de 1978, c'est l'idée de syndicalisme utile. Et c'est un mot utile que l'on retrouve à la fois dans la bouche de François Chérec régulièrement et aussi de Laurent Berger aujourd'hui, qui insiste beaucoup sur cette idée d'utilité, de faire du syndicalisme utile. Et on voit maintenant, avec l'évolution des formes de salariat, l'évolution des relations du salarié à l'entreprise et au travail, que finalement, cette CFDT-là, utile, est plus attrayante pour les jeunes, notamment, que la CGT, qui est dans cette stratégie d'opposition politique permanente.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, apporter une précision sur ce qu'a dit Thierry, avec lequel je suis d'accord, sur la continuité ou la discontinuité entre la doctrine sociale de l'Église et la confessionnalisation de la CFTC et la CFDT à partir de la minorité reconstruction. Je crois qu'on a exactement le même phénomène sur le plan social que la laïcité sur le plan politique. Rémi Brague notamment, mais Jacques Le Goff également, ont montré de façon très claire que la laïcité est un produit d'une représentation de la société par ordre spirituel, intellectuel, charnel, temporel, spirituel et intellectuel, et que donc cette affirmation de l'autonomie des ordres est la vraie source de la laïcité. Ce qui fait que le débat sur l'Europe, les racines chrétiennes de l'Europe, est un débat totalement mal posé, car les racines sont chrétiennes parce que l'Europe est laïque. Et je pense que dans la CFDT, il y a effectivement un ressourcement d'une tradition très profonde dans la société française, qui est effectivement, en revanche, passée par l'affirmation de la laïcité et le refus absolu de la confessionnalisation, ce qui a été le grand apport de la transformation de la minorité reconstruction en CFDT.
Thierry Pêche.
Oui, je dirais presque l'inverse, mais ça va déboucher sur la même chose. Nos sociétés sont laïques parce qu'elles ont des origines chrétiennes. Il faut, je dirais...
Allez, on passe un compromis.
on va passer un compromis acceptable. Relisez les essais sur l'individualisme de Louis Dumont, relisant lui-même le grand historien des religions allemandes, Troeltsch, identifier dans le christianisme les racines de l'individualisme tel qu'on le vit, c'est-à-dire du renonçant, seul ici-bas, mais en lien permanent avec une forme de transcendance. Et donc, Relisez ces textes, ils sont absolument fondamentaux pour comprendre la capacité d'un certain nombre d'idées chrétiennes à vivre méconnaissables dans le monde laïque contemporain.
Je vous remercie. Je vous propose que nous passions à un sujet de politique étrangère, selon l'usage, et que nous nous intéressions à la situation et à la diplomatie de Barack Obama à la fin de son mandat. Le 23 décembre dernier, c'est l'abstention du représentant des États-Unis au Conseil de sécurité qui a permis l'adoption par les Nations Unies de la résolution 2334, qui exige notamment de l'État d'Israël qu'il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. Le texte de cette résolution qualifie ces activités de violation flagrante du droit international et d'obstacle majeur à la paix. L'administration du président Obama, à la veille de la passation de pouvoir, a réalisé une innovation historique dans la politique étrangère américaine. De la politique étrangère américaine sous Barack Obama, on peut notamment retenir le retour des 190 000 hommes engagés en Irak, la signature du Trans-Pacific Partnership, la signature de l'accord sur le nucléaire iranien, le renforcement des relations économiques et militaires avec l'Inde et l'Asie du Sud-Est, la reprise des relations avec Cuba et une remise en question de la pertinence d'alliances historiques avec l'Arabie Saoudite, le Pakistan et Israël. On notera aussi l'échec du retrait des troupes d'Afghanistan, l'absence d'intervention en Syrie, malgré la mise en avant d'une ligne rouge à ne pas franchir, l'absence d'avancée concernant la menace nord-coréenne et l'échec de la relance des relations russo-américaines. Ces relations russo-américaines ont été marquées par un accroissement prononcé des tensions à la fin de la présidence d'Obama. La dernière manifestation de cette escalade a été la décision d'expulser 35 diplomates russes accusés d'espionnage pour sanctionner l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine, ingérence confirmée par les agences de renseignement états-uniennes. Vladimir Poutine s'est refusé à prendre une sanction symétrique, déclarant ne pas vouloir tomber au niveau d'une diplomatie irresponsable. Donald Trump, qui entend revenir sur une part importante des acquis du bilan d'Obama, a salué l'intelligence du président russe dans cette décision. Il s'est également efforcé d'atténuer la portée du rapport des agences de renseignement en affirmant que les piratages n'avaient eu absolument aucun effet sur le résultat de l'élection. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Je ne voudrais pas me trouver entraîné dans la discussion du bilan de la politique étrangère d'Obama, parce que c'est un sujet très grand, en soi très vaste, et qui nous entraînerait trop loin. Mais je vais simplement faire une ou deux réflexions sur ce qui s'est passé au cours de ces deux dernières semaines, tellement tout cela est insolite. En réalité, tout est insolite dans cette affaire. Si on prend le verso, il y a un verso et un recto. Commençons par le verso, c'est-à-dire le point de vue d'Obama. Obama a pris des initiatives de politique étrangère alors que nous sommes en période de transition et que l'usage veut, et il est généralement respecté, que pendant une période de transition, un président sortant, qui est vraiment dans ces dernières semaines, ne prenne pas d'initiative de politique étrangère. Alors, les deux événements dont vous avez parlé sont de nature différente. Dans le cas russe, il a pris une sanction contre ce qu'il considère comme une agression, une cyberattaque qui a eu pour objectif de s'immiscer dans le processus électoral américain. Et il s'appuie sur des rapports qu'il a commandés à la CIA et au FBI qui concluent qu'il y a eu effectivement cyberattaque et il y a eu ingérence dans le processus électoral américain. Il a donc, comme dans les plus beaux temps de la guerre froide, expulsé 35 diplomates russes. Ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'il a fait dans le cas israélien, en décidant de s'abstenir au Conseil de sécurité sur le texte de la résolution 2334. Il a innové en réalité, et il faut remonter à l'administration Carter à la fin des années 70 pour trouver un comportement similaire américain au Conseil de sécurité. Avec l'administration Bush, par exemple, Israël avait une carte blanche et Bush n'a rien fait pour contrecarrer quelque initiative israélienne que ce soit au Conseil de sécurité. Et sous Obama, pendant les 8 dernières années, jamais les États-Unis n'ont voté une résolution hostile à Israël au Conseil de sécurité. Ils ont toujours apposé leur veto qui a protégé Netanyahou en quelque sorte pendant 8 ans. Or là, ce qu'a fait Obama est évidemment une initiative retentissante. D'ailleurs, vous voyez comme Netanyahou a éructé contre la position américaine, oubliant d'ailleurs joyeusement que dans les semaines qui précédaient, M. Obama avait fait adopter un plan de 10 ans d'aide militaire à Israël qui porte sur 38 milliards de dollars et que jamais les États-Unis n'avaient consacré ou s'étaient engagés sur aussi longtemps pour un montant aussi important pour protéger la sécurité d'Israël. Il y a donc quelque chose de très insolite. En réalité, qu'a voulu faire Obama ? D'une part, il a voulu régler un compte avec Netanyahou, notamment parce que celui-ci lui avait infligé l'affront invraisemblable de s'inviter au Congrès des États-Unis en mars 2015 sans aller à la Maison-Blanche pour s'opposer à la conclusion de l'accord contre l'Iran. Et ça, c'est un camouflet qui ne pouvait pas rester impuni. Et d'autre part, parce qu'Obama est choqué par le double langage de M. Netanyahou depuis des années, qui d'un côté dit « je suis pour la solution à deux États » et de l'autre « la rend impossible en développant la colonisation ». Le deuxième, le côté recto, c'est le côté Trump, si vous voulez. Alors, je trouve tout à fait singulier, là encore, qu'un président élu, avant l'inauguration qui n'aura lieu que le 20 janvier, prenne des initiatives de politique étrangère de façon quasi quotidienne, en tweetant tous les jours et tous azimuts sur tous les sujets de politique étrangère. M. Trump, en réalité, anticipe sur ce que sera sa présidente. Et il est amené même publiquement à se dissocier des positions prises par le président en exercice, qui est M. Obama. C'est absolument sans précédent. De même qu'il est sans précédent qu'une période de transition, j'en ai vécu plusieurs aux États-Unis, se déroule comme celle-ci vient de se dérouler. M. Trump se cramponne à New York, refuse de mettre les pieds à Washington, où il n'est venu qu'une seule fois pour voir le président Obama, incarne ou symbolise son rejet du système et son rejet de Washington en prenant volontairement une position tout à fait singulière, qui le met en marge et qui le met constamment en attitude de provocation. Et cette façon qu'il a de dire à Netanyahou ou à Poutine « Attendez une seconde, attendez-moi, j'arrive », est quelque chose de tout à fait extraordinaire.
Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais il est resté le producteur de son émission de télévision,
oui,
et il a embauché Arnold Schwarzenegger pour lui succéder.
Oui.
Sylvie Goffman.
Oui, et il passe son temps à cracher sur Schwarzenegger en disant sur Twitter, en expliquant que sa cote de popularité d'après les sondages sur l'émission, est bien inférieure à celle qui était la sienne quand il animait lui-même l'émission, ce qui est quand même assez élégant vis-à-vis de Schwarzenegger, mais enfin, laissons-les. François, vous êtes méchant, il ne se cramponne pas seulement à New York, il va aussi en Floride.
Ah oui, c'est vrai.
Mais
il ne va pas à Washington.
Dans son petit club de 118 pièces de Mar-a-Lago, il a quand même passé la fin de l'année là, une fin d'année assez active, mais effectivement, il ne va pas à Washington. L'usage de la transition, c'est vrai, veut aux États-Unis que le président sortant ne prenne pas d'initiative importante. Elle a quand même subi cet usage a quand même subi quelques accrocs, parce que, si je me souviens bien, George W. Bush, en 2008, pendant la transition, avant l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, avait pris cet engagement d'organiser un retrait des troupes d'Irak de 2009 à 2011. Et Barack Obama a passé les premières années de son premier mandat à essayer de gérer cet engagement avec des allées et venues qui ont été, enfin, des décisions quelquefois avec le surge et le retrait quelquefois contradictoires, mais il avait déjà les mains un peu liées par cette décision. Mais c'est vrai, c'est très inhabituel, et surtout l'ambiance de cette transition est totalement inhabituelle. Ils ont eu, Obama et Trump ont eu deux jours après l'élection cet entretien à l'issue duquel ils ont dit que tout allait bien se passer, que la transition serait fluide, etc. Et évidemment, il n'en est rien. L'ambiance est absolument, l'atmosphère politique est exécrable, et cette mauvaise ambiance, même si techniquement la transition suit son cours, je lis que les équipes se passent le relais correctement, mais politiquement, cette opposition frontale entre ces différences fondamentales de de politique avec cette crise a éclaté sur la Russie et Israël. Et je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas seulement, ce qui aggrave les choses probablement, il ne s'agit pas seulement d'opposition de fond idéologique, politique, diplomatique. Il y a aussi une différence de style énorme entre les deux hommes. On a d'un côté un intellectuel, un président très cérébral qui est un analyste froid, et de l'autre un président élu qui est un sanguin, qui est instinctif, qui, vous l'avez dit, qui a cette méthode de communication par tweet permanent en 140 signes, ce qui oblige à schématiser quelque peu la pensée quand même, alors que Obama, lui, aime, sur la fin de son deuxième mandat, on a vu, il s'est expliqué dans des très longues interviews, des interviews fleuves, en détaillant vraiment ses idées et sa politique. Voilà, je voudrais juste ajouter que Obama est tellement révulsé, on le sent, sa femme aussi d'ailleurs, Michelle Obama, elle le cache encore moins, que par l'attitude de Trump, qu'il prend le plus de mesures possibles. Il est en train de bourrer son calendrier pendant les quelques jours qui lui restent. Il ne prend pas seulement les initiatives de politique étrangère que vous avez décrites, il prend aussi plein d'initiatives sur le plan intérieur, notamment sur l'environnement. Il a interdit les forages pétroliers au large des côtes atlantiques. Il a décrété patrimoine national deux domaines sauvages dans l'Utah et le Nevada. Il sanctuarise le financement de cliniques de planning familial. Il accélère le transfèrement, je crois qu'on dit comme ça, des détenus de Guantanamo, ou du moins ceux qui sont libérables. On voit, je ne dis pas tout parce que je vois que Philippe me demande d'accélérer, mais on voit qu'il y a vraiment une espèce de fièvre sur les derniers jours qui est impressionnante et qui met Donald Trump encore plus hors de lui.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus ample dans la démarche d'Obama et qui se définit par rapport à Trump. Je suis de ceux, beaucoup de gens ne pensent pas du tout comme moi, mais je le dis quand même, je suis de ceux qui pensent que Trump est quelqu'un qui met très profondément en cause les fondements de toute la politique américaine et occidentale depuis la Seconde Guerre mondiale. Je pense que la notion d'Occident, une notion qui a été contestée, l'Occident, c'est à la fois des principes démocratiques, de liberté, une doctrine économique d'échange, une doctrine militaire avec des alliés dont on est solidaire, c'est un camp, c'est tout un ensemble donc de principes et de forces organisées avec des adversaires et des alliés privilégiés. Tout ça vole en éclats. Le Trumpisme, c'est une politique sans principe. Aucun principe, des tweets, pas de principe, notamment sans aucune référence à des principes démocratiques et aux droits fondamentaux. C'est une politique sans alliés, on se fiche, il n'y a pas de différence entre... Je ne dis pas qu'il fera la guerre, qu'il va nous laisser tomber forcément, mais il n'y a pas de différence pour lui entre un Français et un Chinois. C'est quelque chose, c'est purement empirique. Il n'y a pas de peuple américain, ce qui a été... On a fait une émission sur Abraham Lincoln récemment. C'est l'anti-Lincoln, de ce point de vue-là. Lincoln, c'est le peuple américain qu'on essaie de constituer par-delà cette barrière extraordinaire de l'esclavagisme. Là, rien. On a dressé toutes les catégories les unes contre les autres et on a espéré qu'en mettant tout ça ensemble, ça produirait une majorité, ce que ça n'a pas fait en termes de population, mais ce que ça a fait en termes constitutionnels. Enfin, sans solidarité économique, moi, je suis quand même accablé à l'idée que le grand succès économique de Trump et de ses tweets consiste à empêcher le Mexique d'avoir une économie, une industrie de se développer. Que peut devenir... pour les États-Unis, c'est très grave d'avoir un Mexique pauvre. Pour la France, c'est très grave d'avoir une Algérie qui n'a pas de développement. Donc il faut quand même raisonner autrement. Tous ces principes sont par terre. Que fait Obama ? Obama, il exprime deux choses, me semble-t-il. D'abord, le remords. Le remords de ce qu'il n'a pas fait. Je crois que ça explique ce que dit Sylvie sur la précipitation, sur le caractère... Israël, il avait raison sur Israël, il n'a pas été jusqu'au bout, il s'est fait narguer par Netanyahou. Sur l'Europe, il a bénéficié en Europe d'une popularité extraordinaire, il l'a ignoré. Là, il va voir Mme Merkel et il dit, c'est elle qui défend les principes qui nous sont communs, et sous-entendu, j'ai eu tort de ne pas le dire avant et de ne pas le voir avant. Sur Guantanamo, j'ai pas réussi à tout fermer, mais effectivement, je fais encore ce que je peux faire en matière de transfèrement. Et sur les Russes, c'est plus compliqué, j'ai fait le reset, c'est-à-dire essayer de rétablir des relations normales avec les Russes, ça n'a pas marché, mais j'ai pas non plus été jusqu'au bout, parce que il n'a pas été jusqu'au bout de là, du démantèlement du projet de bouclier antimissile. Donc il y a ce remords. Mais surtout, et c'est ça que je veux dire en conclusion, il y a la volonté de dessiner le terrain qu'il abandonne, de dessiner justement les valeurs et les contours de ce camp occidental qui va être si profondément secoué et malmené par Trump. D'où, on voit bien, Israël, oui, je suis l'ami d'Israël, mais Israël, je ne veux pas qu'Israël devienne un État binational et inégalitaire, puisque si on poursuit la colonisation, on arrivera à un État avec des Palestiniens qui n'auront pas les mêmes droits que les Juifs, et donc un État qui sera bancal et qui est contraire aux principes fondamentaux de la solidarité entre les valeurs américaines et les valeurs israéliennes. Sur le danger russe, oui, je rappelle que les Russes sont un danger pour la démocratie, et sur l'Europe et l'Allemagne, je dis effectivement que nous avons besoin, je dis moi, Obama, que nous avons besoin d'une Europe forte. Et je pense que c'est cette volonté assez pathétique de dessiner un héritage, et un héritage auquel je crois que nous ne sommes pas, nous en France, suffisamment sensibles, à la valeur duquel nous ne sommes pas suffisamment sensibles, car n'oublions pas que ce qui s'est fait depuis 45 en Europe, c'est ce que nous avons fait de mieux dans toute notre histoire.
Thierry Pêche.
On va redescendre quelques milliers de pieds, là, si vous voulez bien. Non, pour Twitter, moi, j'ai été très sensible au fait que désormais, une partie de la politique étrangère se joue sur Twitter. Donc, Donald Trump s'exprime sur les sujets les plus graves dont il va avoir la charge en 140 signes. Mais maintenant, les autres lui répondent également. C'est-à-dire, le président du Mexique a répondu hier ou avant-hier.
Non, c'est l'ancien président
du Mexique, enfin c'est quand même pas mal.
Et sur le ton
de la vulgarité qui sied à ce type d'échange, il lui a dit your fucking wall, ton mur de merde, hein, on va pas le payer. Voilà. Donc je vous annonce l'ambiance des temps qui viennent.
C'est le camp occidental. Ça.
Voilà, your fucking tweet, etc. On va pas forcément toujours vers le mieux. Plus sérieusement, moi je partage assez l'analyse de Jean-Louis. Je pense qu'Obama nous aura montré dans les derniers jours de son mandat tout le caractère qui lui aura fait défaut 8 ans durant, sur beaucoup de sujets. Et sur deux sujets en particulier, le voici enfin clair avec Netanyahou, le voici enfin clair avec la Russie. Mais il est bien tard. Il est bien tard parce que beaucoup d'erreurs ont été commises. Lui qui donne si volontiers des leçons au monde dans des articles de revue, qu'on peut juger d'ailleurs plutôt bien faits, va devoir souffrir d'en recevoir quelques-unes. Parce que tout de même, l'été 2013, l'affaire de la ligne rouge, il n'y avait pas de ligne rouge finalement, les armes chimiques, c'est une affaire compliquée, mais rien ne l'obligeait à dire ligne rouge. Rien. Sur la Syrie, oui, bien sûr, sur la Syrie. Dans l'affaire ukrainienne, dans l'affaire de la Crimée, dans l'affaire de la Libye, le suivisme qui a été le sien, sans discuter, de Cameron et Sarkozy, dont a posteriori, je le dis d'autant plus volontiers que moi j'étais plutôt pour l'intervention en Syrie, mais je dois bien reconnaître que les conséquences nous donnent tort. Il eût été préférable d'agir autrement. Il n'a pas fait preuve non plus là de grand caractère. Bref, je trouve qu'il a manqué certains grands rendez-vous et qu'au total, au terme de ces 8 années, le camp occidental est un peu un souvenir théorique. Il y a effectivement beaucoup de rendez-vous manqués.
François Bujon de l'État.
Oui, il y aurait beaucoup de choses, Thierry, sur lesquelles nous pourrions débattre, parce que beaucoup de choses que vous dites sont vraies. Il y a des points sur lesquels Obama ne peut pas. Par exemple, on dit l'échec du reset avec la Russie est un grand échec d'Obama. C'est peut-être un grand échec de la Russie aussi, parce qu'après tout, elle en est tout autant responsable. C'est comme dans les divorces, n'est-ce pas ? Il n'y a jamais un seul responsable. Ce que je trouve symptomatique, deux choses, je voudrais dire. La première, c'est que ce que je trouve très symptomatique, c'est que les deux initiatives que nous venons de discuter, c'est-à-dire l'expulsion des diplomates russes et l'exacerbation de la querelle avec la Russie, d'une part, d'autre part, la condamnation de la colonisation dans les territoires occupés, ce sont des initiatives prises par Obama dans deux des domaines où il a conscience d'avoir échoué, finalement. Alors, c'est pas une raison pour l'accabler, Thierry. Je crois qu'il faut pas le faire. Trop de gens je ne vous fais pas ce reproche, mais trop de gens le font dans les commentaires qu'on lit. N'oublions pas quand même, par exemple, sur l'affaire palestinienne, qu'il est le seul président des États-Unis qui ait inscrit ce point comme une priorité de sa politique étrangère dans la première année de son premier mandat. Et comme cela avait échoué, il l'a fait de nouveau dans la première année de son second mandat. Il n'a abouti à rien. C'est un fait, mais là encore, les responsabilités me paraissent partagées. C'est pour ça que je pense qu'en voulant mettre des garde-fous avant de partir, comme il l'a fait avec la résolution 2334 et comme il le fait avec l'expulsion des Russes, il cherche à limiter la liberté de manœuvre d'un monsieur Trump qui l'inquiète à tous égards et qui lui paraît être un éléphant dans un redoutable magasin de porcelaine. Ça me paraît très très clair. Donc voilà. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est une remarque que vous permettrez à un ancien diplomate de carrière, c'est que le tweet, c'est le degré zéro de la diplomatie. C'est pas le degré zéro de la pensée, mais c'est parce que le tweet, c'est l'emporte-pièce. Et tout ce qui est l'emporte-pièce est le contraire de la diplomatie.
C'est sur cette considération que nous allons passer à la section suivante de notre émission, la séance, la section des brèves. Chemin faisant, en arrivant ici, j'ai appris la mort de Jean-Claude Perrier, ce qui ne dira pas grand-chose à beaucoup de monde, mais comme on a célébré au début de cette émission quelqu'un, la disparition d'un honnête homme, je voudrais saluer la disparition d'un honnête homme de haut fonctionnaire. Jean-Claude Perrier était un magistrat de l'ordre judiciaire à qui on avait confié la direction de la gendarmerie après la guerre d'Algérie et qui a eu pour mission de réparer la gendarmerie, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui s'étaient mal conduits, et il y en avait beaucoup, soient mis à l'écart, mais sans que ça porte atteinte à la réputation ou à l'honneur de la gendarmerie, et à les remplacer par des gens qui avaient de l'éthique gendarmesque et militaire une vision autrement exigeante. Il l'a fait sans bruit et en acquérant suffisamment la confiance de cette arme pour que, au moment où Michel Rocard a envoyé sous la direction de Christian Blanc une mission en Nouvelle-Calédonie, il soit absolument essentiel que l'ancien directeur de la gendarmerie, qui était parti, il avait été 11 ans directeur de la gendarmerie, qui avait quitté la gendarmerie de longue date pour aller au Conseil d'État, soit la seule personne qui puisse parler aux gendarmes, dont plusieurs d'entre eux avaient été tués préalablement. Je voulais donc saluer sa mémoire et je dis rapidement un mot d'un livre qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste d'Yves Delmas et de Charles Gancel, Protest Song, la chanson contestataire dans l'Amérique des 60s. Ça commence avec Bob Dylan et ça continue jusqu'à la renaissance de la musique country, dont on n'écoute jamais suffisamment les paroles. En ce moment, nous nous intéressons beaucoup à l'Amérique. C'est une très bonne façon de s'intéresser à l'Amérique par un biais musical. Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je vais abandonner les brèves que j'avais envisagées pour dire un mot de la mémoire de Mario Soares. J'ai bien connu Mario Soares, il était président du mouvement international Europe, quand j'étais président du mouvement européen France, et j'ai beaucoup pratiqué, c'est un homme pour lequel je crois qu'il faut dire, c'est un homme très important. D'abord parce qu'il a épargné à son pays, il a arraché son pays au salazarisme, puisqu'il a hérité d'une situation, et il a épargné à son pays le stalinisme. Et deuxièmement, c'est un homme qui n'a jamais séparé trois choses fondamentales, j'y reviens, qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, c'est la cause de la solidarité sociale, la cause des libertés démocratiques et la cause de la construction européenne. Ces trois vertus sont centrales. Et j'ajoute, je termine par là, que c'était un grand ami de la France, que c'est parce qu'il était en symbiose avec notre héritage, et je pense toujours à la phrase de Malraux dans son discours des Glières, évoquant ceux qui nous aimaient encore. Eh bien, Mario Soares fait partie de ceux qui nous aimaient encore, et je voudrais que nous respections ceux qui nous aiment encore.
Thierry Pêche.
Eh bien, pour tous ceux qui portent un peu le même deuil que moi cette semaine, la musique est toujours la chose la plus consolatrice qui soit. Je vous recommande vivement l'enregistrement de pièces de Schubert et Beethoven par Grigory Sokolov. C'est sorti chez Deutsche Grammophon en janvier 2016, il y a maintenant quelques mois. Mais c'est vraiment extrêmement beau. Si ça ne vous fait rien, alors là, inquiétez-vous, consultez très vite, parce que c'est vraiment de la très belle musique.
François Bujon de l'Étang.
Et je suis un peu confus, mais au risque de donner un caractère exagérément nécrologique à notre émission, je voulais quand même saluer la mémoire de Michel Déon, qui a eu la malchance, si j'ose dire, de mourir entre Noël et le 1er janvier et dont le départ, je trouve, n'a pas été salué avec suffisamment de soin. Michel Déon était un vétéran des lettres françaises, mais c'était aussi un petit prince des lettres françaises. Il est mort à 97 ans et il était membre de l'Académie française depuis 1978. C'était un homme, pour ceux qui l'ont connu, et j'ai eu la chance de le connaître, extrêmement sympathique, ouvert, chaleureux, intéressant et cultivé. C'était un écrivain remarquable, marqué par le stendhalisme, beaucoup au début notamment de sa carrière, qui laisse une belle œuvre romanesque. Et il était aussi un personnage dans la mesure où il était le dernier survivant des hussards, cette école qui n'en était pas une, mais dans laquelle évidemment Roger Nimier, Antoine Blondin, Kléber Hédin, c'est Jacques Laurent, se sont distingués, qui est né en réaction à la littérature engagée et qui voulait restaurer des lettres de noblesse du dilettantisme.
Alors en effet, on est beaucoup morts ces derniers temps et il a fallu choisir parmi les morts. Et je suis content que vous ayez évoqué Michel Déon. C'était un lecteur aussi extraordinaire, oui, qui restait d'une curiosité à l'égard de ses contemporains beaucoup plus jeunes que lui, qui était tout à fait exceptionnel. Et en même temps, une fois où j'étais allé en Irlande, on m'avait conseillé d'aller le voir. J'avais un petit mot de recommandation pour lui. Il m'a dit « Venez prendre un verre vers 11h ». Je suis reparti 2 jours plus tard.
Oui, c'est ça.
C'était Michel Déon. J'avoue qu'aussi, alors s'il faut aller de mort en mort, mais la mort de Georges Prêtre, qui était vraiment un très grand chef et un homme d'une gentillesse et d'une tellement trop gentil quelquefois pour certains orchestres qui avaient davantage besoin d'entendre le claquement du fouet que le mouvement de la main, de cette main qui donne le sens de l'interprétation.
Sylvie Kaufmann. Vous êtes peut-être méchant, Philippe.
Ah, vous êtes peut-être féroce.
Ah oui, c'est bien ce que j'avais compris.
Jean-Louis prend Philippe pour son chef, c'est pour ça.
C'est un cas de Toscanini.
Absolument. Mascalzone, come fai? Pardon, Sylvie.
Non, je vous en prie. Je vais vous parler d'une période beaucoup plus réjouissante, 1940. C'est à travers un livre qui est vraiment un livre très intéressant, qui s'appelle « Les derniers jours de Paris ». C'est un livre qui a été écrit à l'époque par Alexander Werth. Alexander Werth est le père de Nicolas Werth, le grand historien français du stalinisme, qui a eu l'idée lui-même de remettre ce livre qui avait totalement disparu en édition. Donc Alexander Werth était correspondant du Manchester Guardian à Paris pendant 10 ans, et à partir du 10 mai 1940, quand il a reçu ce coup de téléphone dans sa chambre, il était encore au lit, ce matin d'un ami qui lui dit « Ce matin à 4h, les Boches ont envahi la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Petite nouvelle que j'ai cru devoir t'intéresser, tu peux maintenant aller t'acheter un pyjama doublé en ciment. » Et comme la censure l'a empêché d'écrire ses articles, d'envoyer ses articles à son journal, il s'est mis à écrire un journal intime. Et c'est ce journal du 10 mai au 20 juin 1940 qui est publié. Et c'est vraiment une lecture fascinante que je vous conseille chaudement aux éditions.
Merci. Vous avez rendez-vous avec Alain Crugère pour Ne parle pas la bouche pleine. Son émission s'intitule « Anti-gâchis, les poubelles de sauvetage des chiffonniers des biodéchets ». Et il reçoit un restaurateur, Stéphane Martinez, qui trie et qui traite les déchets alimentaires en bio des restaurateurs d'Île-de-France. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec à la technique Olivier Dupré, Xavier Lévesque et Jean-Benoît Tétu, et avec dans la salle un public dont la concentration, l'absence de tout, nous a à la fois soutenus et rassurés. Merci à lui et à la semaine prochaine.